L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans LEM, l'émission quotidienne de Transistor, c'est le nouveau nom de Radio Évasion. Mais LEM, c'est toujours en direct à midi et en rediffusion à 18h, et puis c'est toujours avec des partenaires fidèles comme l'association Bretagne Vivante et des vedettes de la nature, surtout les 27 et 28 janvier prochains. J'ai nommé les oiseaux. Fin janvier, ce sont les oiseaux des jardins qui nous intéressent. C'est comme ça, chaque année. Mi-janvier en France, c'est le lancement du grand recensement des humains. Et fin janvier, ce sont donc les oiseaux des jardins qui sont comptés par tout le monde, toutes celles et tous ceux qui le veulent. En tout cas, Luc Guillard est éducateur nature à Bretagne Vivante et il va nous expliquer pourquoi et comment. Bonjour Luc.
Bonjour.
Pourquoi donc cette observation est-elle organisée chaque année si fidèlement?
Alors, cette organisation-là, en fait, se poursuit depuis 15 ans. Donc, quelque part, la machine est lancée et l'intérêt de l'observation, c'est de la poursuivre. Donc, il y a ce rendez-vous annuel là, qui permet d'accumuler des informations. Et puis, c'est l'occasion de proposer un rendez-vous sympathique aux citoyens, citoyennes, aux gens, avec ces petits êtres vivants qu'ils côtoient de près, quoi.
Et en fait, ça a lieu dans toute la France, mais c'est un peu chaque association, selon les régions, qui s'en occupe, c'est ça?
Oui, voilà, c'est un travail concerté, en fait. C'est l'intérêt du comptage, c'est qu'en fait, tout le monde le fait au même temps, au même moment. Et nous, on le met en œuvre, en fait, depuis 2010. Mais c'est le GEOCA, le groupe d'études ornithologiques des Côtes d'Armor, qui a lancé le bal en 2009. Donc ça veut dire quand même 15 ans de suivi, déjà.
Et sinon, au niveau national, le comptage de la Ligue de protection des oiseaux, c'est les mêmes dates aussi, non?
Il y a aux mêmes dates et c'est un comptage en continu aussi,
oui,
il me semble, avec la Ligue pour la protection des oiseaux.
Donc ça, c'est de la science participative. C'est néanmoins quand même de la vraie science. Enfin, il y a des vraies données parce qu'il y a beaucoup de participants et de participants, c'est ça?
Oui, voilà. En fait, c'est de la science participative. On va quelquefois un petit peu dévaloriser le principe, mais en fait, si on se tient au protocole qui est proposé, ça, c'est de la science en fait. Et on suit une démarche qui propose des données qu'on appelle généralement robustes, fiables, et puis qui peuvent ensuite être analysées et commencer à produire des informations en fait. Ouais.
Parce qu'il y a beaucoup de participants en fait. Alors chaque année c'est à peu près le même nombre ou ça augmente? Alors l'année dernière par exemple, il y avait combien de personnes, de jardins qui ont participé?
Oui, voilà, de jardins ou de lieux qui ont été comptés. C'est pas que les jardins en fait, ça
oui,
peut
c'est
être
vrai.
Le parc à côté de chez vous, ça peut être votre lieu de travail, la cour de l'école. On n'est pas obligé d'avoir un jardin en fait.
Non, bien sûr. Voilà. Du moment qu'il y a quelques arbres quoi. En
oui,
fait, c'est ça.
Voilà. Ouais. Et le nombre à peu près régulier en fait. Et l'année dernière, il y a eu 3759 lieux qui ont été comptés.
C'est un peu moins que d'habitude, non?
C'est un peu moins, je pense, parce qu'on a dû tourner à 4000, en fait. Je n'ai pas contrôlé les chiffres des années précédentes. Et parmi ces 3759, on évalue à 50% en gros les fidèles, ceux qui continuent.
Qui récidivent.
Voilà, qui récidivent, qui continuent à compter, quoi.
Faut dire que moi je le fais, j'aime beaucoup, j'attends ce moment parce que je trouve ça vraiment sympa. Parce que c'est ça aussi le but, c'est de sensibiliser les gens aussi aux oiseaux.
Bien sûr, ouais, c'est l'intérêt, c'est le but des sciences participatives aussi. Il y a une partie importante qui porte sur la sensibilisation. Donc on produit des documents de sensibilisation. Par exemple, on n'est pas obligé d'être un grand connaisseur des oiseaux pour se lancer. On va trouver sur le site de Bretagne Vivante des éléments, des petits éléments d'identification. Et puis, l'avantage aussi des oiseaux de notre proximité, c'est qu'ils sont un peu farouches, pas trop difficiles à reconnaître. Enfin, on n'a pas de grande rareté. Et donc, quelque part, c'est un peu se mettre le pied à l'étrier pour aller un peu plus loin, peut-être, dans la connaissance des oiseaux, quoi.
Il y a peut-être des gens qui sont devenus ornithologues passionnés en commençant par compter les oiseaux de leur jardin.
C'est possible.
Ouais, on n'a pas les noms, mais...
Ou dont les enfants sont peut-être partis. Parce qu'il y a ça aussi, c'est qu'on va le faire en famille.
C'est ça.
C'est un peu sympa sur ce plan-là, quoi.
Et c'est en hiver parce qu'il n'y a pas de feuilles dans les arbres et qu'on voit mieux les oiseaux. C'est ça, en fait, l'idée, c'est...
Oui, voilà. Et puis, on a les oiseaux aussi à intenter. On a choisi ce temps-là. En fait, la période de reproduction n'est pas commencée. Et donc, on a les oiseaux, je dirais, à portée de main, et où ils sont regroupés sans se livrer à d'activités particulières liées à la reproduction. Quoi.
Et on les a tous, enfin non, parce qu'il y en a certains qui migrent, mais qui ne seront pas là parce que c'est l'hiver, mais en gros, on a quand même l'essentiel des espèces.
On a une large palette d'espèces, par exemple, voilà un autre chiffre, là, il y a beaucoup de chiffres,
oui,
parce
oui,
justement,
oui.
Quand on produit non, les données,
oui, bien sûr, bien sûr. Bah, oui.
Dans le Finistère, cette année, par exemple, là, il y a eu 72 espèces de comptées dans les jardins.
Ah oui.
Ah, pas 72 espèces.
Ah, c'est beaucoup plus que sur la plaquette du panorama des oiseaux.
Oui,
alors. Ah,
voilà, oui. Ouais, là, on a choisi, nous, une cinquantaine d'espèces dans ce petit dépliant dont tu parles. Mais en fait, voilà, en 29, c'était 72 espèces. Je ne vais pas regarder pour les autres départements. Et, mais ce n'est pas 72 espèces dans chaque jardin.
Non, bien sûr.
En moyenne, on n'a pas tout.
Oui.
Moi, par exemple, je compte dans mon jardin, j'en ai trouvé une petite dizaine, c'est tout. Quoi.
Ouais, c'est ça. C'est déjà pas mal, hein, parce que moi, je suis plutôt à 6 ou 7. Hein.
Oui, voilà. Ouais.
Bon, après, peut-être que je les confonds, on va voir ça.
Je n'ai pas répondu complètement. Oui. On va avoir en fait des oiseaux là, qui sont des oiseaux sédentaires, donc les oiseaux qui nous tiennent tout le temps compagnie. Mais on a encore aussi des oiseaux hivernants qui tiennent aussi compagnie à nos oiseaux sédentaires, là. C'est le cas du rouge-gorge, par exemple. Le rouge-gorge qui se fait bien remarquer dans les jardins tout au long de l'hiver n'est pas forcément le rouge-gorge qui va nicher dans le secteur.
Ah oui, c'est
il
ça.
Il va peut-être retourner en Écosse.
Ah
ou
oui,
en
c'est
Suède.
Ça, parce que c'est un oiseau migrateur. Enfin, pas toujours, mais.
Voilà, ça nous appelle les migrateurs partiels, en fait. Ce n'est pas des grands transsahariens ou des choses comme ça. Mais en fait, ils se délocalisent, puisque les conditions météo sont moins favorables dans leur secteur. Ils trouvent moins à manger. Donc, ils se décalent. Puis, si ça continuait à se dégrader la température, ils descendraient encore un peu plus.
Alors, les vedettes, chaque année, c'est presque les mêmes. Enfin, c'est, l'année dernière, en 2023, c'était. Quels étaient les oiseaux qu'on voyait le plus dans les jardins bretons et en fait, Loire-Atlantique aussi enfin...
C'est vrai que c'est toujours un peu le même tiercé gagnant. Je pense qu'on ne fera pas de pari, en fait, parce qu'on est à peu près sûr de perdre, enfin de gagner peu plutôt. Donc, en fait, au niveau régional, alors, on regarde deux choses. On regarde l'abondance et on regarde la fréquence, en fait. Donc, l'abondance, c'est les quantités. Au niveau régional, bah, le trio, et au niveau 29... Je regardais un petit peu le Finistère aussi. En fait, c'est le moineau domestique, le pinson des arbres et la mésange bleue qui sont sur ce podium. Je les ai cités par ordre de 1 à 3. Et les plus fréquents, donc ceux qu'on va rencontrer dans le plus de jardins.
Mais avec un seul individu, c'est ça?
Oui, voilà.
Moins abondant, plus fréquent, mais
oui,
moins
voilà,
abondant.
Ouais.
Donc ça sera.
Et ben, c'est rouge-gorge,
voilà.
Le merle noir. La mésange charbonnière et la mésange bleue. Ce que soulignaient les collègues qui ont analysé ces données, c'est que le merle noir, il a rejoint ce podium.
Ah oui, mais c'est étonnant, il n'y était pas.
Non, il n'y était pas, mais il n'était pas loin.
Bah, oui.
On sort ce podium de la dizaine, qui domine, quoi.
Ouais, c'est ça. Et le rouge-gorge, c'est normal qu'on n'en voit qu'un parce qu'il est territorial, c'est ça? À chaque rouge-gorge, son jardin un
ouais,
peu.
C'est ce qu'on dit, c'est vrai, hein, c'est tout à fait vrai. C'est un territorial. Ils sont tous territoriaux, en fait, en réalité. Différentes façons de se comporter, hein, c'est pas homogène hein, la vie des oiseaux, c'est pour ça que c'est intéressant à regarder. Mais le rouge-gorge, lui, il continue à être territorial en hiver. Normalement, le territoire, c'est autour du nid, donc c'est le moment de la reproduction qu'on va commencer à marquer les territoires. D'ailleurs, on commence à entendre des chants, et ben, ces chants que l'on commence à entendre, ce sont des individus, alors c'est pas tous les individus de la même espèce qui chantent, mais il y en a certains qui se mettent en action en premier, bah, commencent à marquer leur territoire, commencent à avoir cette action pendant la reproduction qui va, et le chant va notamment servir à définir ce territoire.
Donc c'est un repérage avant même qu'il y ait couple parfois finalement.
Exactement, parce qu'en fait le chant sert aussi à la femelle à choisir le mâle, c'est la femelle qui choisit le mâle avec lequel va décider de faire une famille cette année-là. Quoi.
Mais c'est le mâle qui choisit le territoire.
Le mâle, voilà, le mâle choisit, propose un territoire et la femelle choisit, le mâle, alors est-ce que c'est celui qui chante le mieux? Elle trouve que le territoire est pas mal, c'est pas bien orienté, j'en sais rien, avec de la
ressource.
Mais
c'est ça, oui, quels sont les critères? Oui, bah oui.
Ah bah ça c'est difficile, on n'est pas dans la peau, on imagine.
On imagine, monsieur Rouge-Gorge apprécie ce jardin parce que, on reviendra tout à l'heure.
Et le Rouge-Gorge, donc lui, en hiver, il repousse tous les autres Rouge-Gorges. La fameuse tache rouge est un bon point de repère, la rouge-orange. Et non, il va dire, ici c'est chez moi, même quand il est pas vraiment chez lui, en fait.
Alors que les mésanges, il y en a plein. Ça peut, on voit deux mésanges et puis deux mésanges une heure plus tard, c'est pas les mêmes, pas forcément en tout cas.
Ouais,
c'est ça.
Voilà. Ouais. Ouais. On peut imaginer qu'elles sont cantonnées à un jardin, à un périmètre. Pour ça, je ne vais pas dire le mot territoire pour le coup. Et, mais elles vont plutôt s'associer, constituer quasiment des micro-colonies, micro-groupes, en groupes hivernaux, où là, elles exploitent la ressource alimentaire en commun. Quoi. En période de reproduction, la ressource alimentaire, ils la réservent à leur famille, en fait. Donc c'est pour ça aussi qu'ils vont se définir un périmètre donné. Quoi.
Et puis il y a les oiseaux carrément grégaires, on dirait, enfin les choucas, je ne me trompe pas, ils vivent toujours en groupe ou...
Ouais, ils sont grégaires, ils sont coloniaux. Et donc, en fait, un peu comme le moineau domestique, c'est cet oiseau-là qui est, qu'on va avoir en nombre aussi, et en fait, ils vont constituer des groupes en hiver assez abondants, mais ces groupes perdurent en fait, pendant la période de reproduction, donc un peu plus dans les mois à venir. Là. Mais ils vont quand même nicher individuellement. Mmh. Ils vont, voilà. Mmh. On va avoir, par exemple, le pinson... les oiseaux de ce groupe-là, qui vont constituer des groupes d'hivernants, en fait, en abondance. On va les avoir dans les champs, à proximité des villes, en campagne, en fait, où là, ils vont aller manger les graines ensemble, quoi.
Des radias.
C'est un peu ça,
mais
ouais.
C'est intéressant pour eux d'être en groupe. Enfin, quel est l'intérêt pour eux d'être en groupe?
Ah, bonne question.
J'en ai pas.
On peut en voir un, c'est un petit peu comme les bandes poissons. Être en groupe, ça veut dire que on est moins, par exemple, perceptible comme le groupe rassure et le groupe va un peu protéger des prédateurs oiseaux notamment. Je pense faucon, je pense épervier, qui vont avoir plus de difficultés à choisir une proie dans un groupe constitué de plein de petits points qui volent en même temps. Quoi.
Mmh. Alors, on peut faire des portraits. Est-ce qu'il y a des espèces donc, qu'on va observer facilement? Il y en a d'autres qui seront peut-être plus difficiles à observer. Quelles seraient-elles?
En fait, j'en ai choisi une, en fait, qui est la grive musicienne, par exemple.
Bon, alors, on va l'écouter, alors. Allons-y. Alors, c'est la sonothèque du Muséum d'histoire naturelle qui nous propose toutes sortes de chants d'oiseaux. Ils sont presque tous là. Et là, c'est Pierre Huguet qui a capté ce son-là. Là, c'est un chant assez long. Enfin, c'est vraiment un chant, là.
Oui, c'est un chant. En fait, là, on est... elle n'a pas commencé à le faire encore. Enfin, moi, je ne l'ai pas entendu, au moins. Peut-être qu'ailleurs, sur le territoire, c'est peut-être parti. Mais, c'est un chant assez répétitif. La grive musicienne, elle marche par série de 3, en fait, dans ses notes. Et donc, puis elle va chanter de points très hauts. Vraiment, en haut des arbres, en haut, voilà, c'est son truc. Enfin, vraiment, ça porte loin, quoi. On l'entend à 1/2 km, en fait.
Oui, c'est assez sonore.
C'est très, très c'est... sonore. Mmh. Musicienne, c'est pas pour rien.
C'est
quoi.
Pour ça, d'accord.
C'est pas une très bonne musicienne. moi, j'ai pas une grande oreille musicale, je le reconnais. Mais...
c'est pas très varié, en fait.
C'est très
chant.
Monotone. Ouais. Au bout d'un moment, un peu comme le pinson des arbres, on en vient à dire que c'est un peu casse-pieds, quoi, au bout d'un moment, quand ils n'arrêtent pas de... Parce qu'au moment de la défense ou de l'affirmation du territoire, mais ça n'arrête pas, quoi. Au début, c'est sympa, et puis au bout d'un moment... Moi, je devrais pas parler comme ça, c'est pas bien. Oh.
Et donc, la grive musicienne, on aura plus de mal à l'observer dans les jardins, alors.
Alors, on va voir, voilà. Alors, elle peut être... elle est beaucoup plus discrète, en fait, que les autres. Ce qu'on demande comme information dans le comptage, c'est savoir si les gens nourrissent ou pas les oiseaux, par exemple. Le fait que l'on nourrit va être plus attractif. Mais en fait, pour la grive musicienne, ça n'a pas trop d'influence, puisqu'elle ne vient pas forcément aux mangeoires. À moins que des choses soient tombées par terre, mais autrement, elle se nourrit plutôt au sol. Et elle va fréquenter plutôt les limites, les bordures du jardin. Donc ça vaut le coup quand on a la grive musicienne, enfin, si on veut la voir, ou si on dit, tiens, je vais peut-être me concentrer un peu sur cet oiseau, on ne sait jamais, parce qu'elle est relativement fréquente, en fait. C'est de regarder plutôt les bordures, les pieds de buisson, les limites de plate-bande, tous ces trucs-là. Et c'est là qu'on va pouvoir la repérer. Elle va se tenir un peu dressée. C'est la taille d'un merle, en fait.
Oui, ça ressemble un peu, d'ailleurs, à une femelle merle. Enfin, on peut la confondre, éventuellement.
Oui, voilà. Ouais, ouais. Ça ressemble beaucoup à une femelle merle. La grande différence, c'est un poitrail très clair avec plein de points noirs dessus. Et si on a une petite lumière comme aujourd'hui, là, qui vient taper dans le poitrail, là, c'est bien éclairé, il n'y a pas de problème, on ne se trompe pas, quoi.
Ah oui. Et donc, qu'est-ce qu'elle mange au sol, cette grille musicienne ?
Eh bien, elle va manger tout un tas de petites bêtes, en fait. Hein, vers de terre, limaces, escargots. En fait, c'est, souvent, on fait le lien entre ces oiseaux et le jardin. Bon, en fait, c'est des auxiliaires du jardinier, en fait. Alors, pour savoir si elle fréquente votre jardin, d'ailleurs, plutôt en période de reproduction, donc plutôt au printemps, si vous constatez la présence de d'amas de coquilles escargots fracassés à côté d'un caillou, par exemple, ben là, vous avez de la griffe musicienne dans le coin. Alors, le merle le fait un peu, mais la griffe musicienne, c'est sa spécialité. Donc, le caillou, on va appeler ça une enclume à ce moment-là. Et donc, elle capture des escargots, elle explose la coquille contre le caillou.
C'est barbare.
Voilà. C'est assez, ouais. C'est... Hein ouais, elle n'a pas de couteau de fourchette.
Eh ben non, hein, ben voilà. Bah, avec son bec, elle pourrait les casser, mais
elle
non.
Pourrait,
elle
ouais,
elle les jette sur les cailloux.
Non, elle les jette pas. Elle les tient avec son bec, elle les frappe.
Ah oui, d'accord. Oui, d'ailleurs, donc elle se sert vraiment des
si
deux
si vous
outils.
Entendez dans votre jardin un tac, 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 assez clair à un moment donné, qui c'est qui tape là ? Eh bien, regardez bien, c'est certainement la grille musicienne. Oui. C'est vraiment...
C'est long.
Et donc, est-ce qu'on peut faire ? Ben, c'est... Parce que les escargots au jardin, on voit un peu ce que ça donne. Hein.
C'est potager, quoi. C'est sûr, moyennement. Ouais.
C'est de mettre un peu des voilà, les cailloux un peu triangulaires pointus, là, de les disposer dans des zones un peu dégagées. On offre une enclume à la grive et elle peut venir faire le ménage des
escargots.
C'est
noté.
C'est
donc
pas
elle,
mal.
Elle n'est pas trop menacée de disparition, la grive musicienne.
Elle se porte bien. Alors, les conditions de régression des oiseaux au sens large, elle est subie comme les autres. Mais le comptage, par exemple, nous montre qu'en gros, on reste sur le même nombre d'individus et la même fréquence. Alors, c'est un oiseau qui n'est pas facile à détecter, donc peut-être qu'aussi, il y a des biais. Hein, dans tous ces trucs-là, il y a des biais, en fait.
Ouais.
Mais, quelque part, la grive, cette grive musicienne se porte encore pas mal, on estime.
Bon,
quoi.
Donc, on va être attentif à la grive musicienne.
Donc, ça vaut le coup de regarder les bordures du jardin.
Et puis sinon, alors, il y a l'accenteur mouchet qui est tout petit et qu'on peut confondre éventuellement. On va l'écouter. Ah, il y a un merle en plus.
Oui.
Donc, c'est Pierre Huguet qui a toujours enregistré cet accenteur mouchet. Qu'est-ce qu'on peut en dire de l'accenteur mouchet ?
Bah, l'accenteur mouchet, dans le comptage, là, c'est le piège, un petit peu, pour certains.
Oui. Eh oui.
Eh oui. En fait, on peut le confondre super facilement avec le moineau domestique. Ils ont vraiment beaucoup, beaucoup de points communs. Mais ils ont vraiment aussi beaucoup de différences. Donc, c'est un peu le jeu des erreurs avec ces deux-là. Donc, quand on voit un moineau qui a une drôle d'allure, qui ne va pas se tenir dressé, par exemple, qui va se tenir un petit peu à l'horizontale, qui a des pattes plutôt orangées, au lieu d'avoir des pattes un peu
jaunes.
Il
faut réussir à voir ça, parce qu'il bouge tout le temps. Hein. Enfin, faut quand même dire ce qu'il est, c'est pas facile. Hein,
Ouais, mais il ne bouge pas trop, non plus pareil, en fait.
Ah ouais.
Moi, je trouve le moineau plus rondouillard, en fait.
Oui, c'est vrai.
Tandis que l'accenteur, il va être un peu plus effilé.
Je trouve que le dessin du moineau est plus net.
Oui.
Le plumage, enfin le dessin du plumage.
Bah, tout à fait, ouais. Et si on a en plus le bavoir noir du mâle du moineau domestique, il n'y a pas photo, quoi. Voilà. L'accenteur mouchet, il a aussi beaucoup de gris, un gris cendre assez soutenu au niveau du col et de la tête. Bon, ça, c'est pareil. On ne va pas se tromper quand on a repéré ça. Et puis, et son bec aussi. Les deux becs n'ont rien à voir. Un bec court et triangulaire pour le moineau, un bec un peu plus allongé et effilé pour l'accenteur. Donc voilà, c'est ces petits détails. Mais pendant l'heure d'observation, il peut revenir plusieurs fois et là, on ne va pas... Alors ensuite, le moineau, ce sont des oiseaux qui sont plutôt en groupe,
oui,
donc
c'est
on
ça.
Va en avoir trois ou quatre peut-être ensemble. L'accenteur, il est plutôt... Enfin, on a un ou deux individus, puis c'est tout, quoi, dans le jardin, quoi.
Et sinon, qu'est-ce qu'il mange, l'accenteur ?
Lui, avec son... Alors, je dirais qu'il mange de tout, on pourrait dire ça, voilà. C'est-à-dire des invertébrés et des graines, voilà. Mais ce bec fin, là, effilé, désigne un oiseau qui a un régime alimentaire qui est dominé par les petites bêtes, en fait. Donc, en faisant un gros résumé, les insectes.
Ah oui.
Voilà, au sens large.
Oui, arthropodes, tout ça, des vers, ouais, peut-être.
Voilà, ouais. Un peu de vers, un peu de... de moucherons, enfin voilà, toutes ces petites bêtes là, des larves, des choses comme ça quoi.
Alors que le moineau avec son gros bec rectangulaire là, il va manger que des graines, c'est ça?
C'est un granivore, ouais, donc il est plutôt équipé lui pour fracasser ou casser les coques des graines. Mais au moment de l'élevage des jeunes, il alimente aussi ses jeunes avec des insectes. Hein. Tous les oiseaux ont besoin de protéines animales comme ça. Donc c'est ce qui explique aussi leur déclin à toutes ces espèces. Hein. C'est pas une note très très joyeuse, mais c'est un constat. Où justement, tous les produits qu'on utilise pour lutter contre ces bestioles, les insectes, je veux dire.
Ouais. Tous les pesticides.
Tous les pesticides, biocides et autres, là, vont pénaliser les insectes. Et par le jeu de la chaîne alimentaire, ce système, on va aboutir aussi à pénaliser les oiseaux. Quoi.
Tous les oiseaux, donc pas seulement... puisqu'ils sont tous potentiellement carnivores, entre guillemets.
Quoi. Oui, c'est voilà, ouais. À un moment donné, dans le régime. Ouais.
Et un qui était menacé, qui remonte un peu la pente, qu'on va écouter aussi, et là c'est Fernand de Roussin qui l'a capté au Cap Fréhel, c'est le verdier d'Europe. Alors, je ne sais pas si c'est son chant ou si c'est plutôt un cri d'ailleurs. C'est
plutôt son cri en fait. Là. Et ce qui lui permet d'ailleurs de le repérer très facilement parce que le trit, là, comme on entend, c'est caractéristique. Quoi. Et il y a un pouillot véloce derrière aussi.
Ah, là. Oh là là, quelle oreille, bravo.
Oh là là, c'est pas un champion, mais...
Et oui, parce que là, il n'est pas recommandé pour l'observation des oiseaux des jardins de se fier à son oreille, parce que nous, on n'est pas assez experts. Il faut bien avoir vu les oiseaux pour les mentionner, hein, c'est ça. Hein.
Oui, voilà, on va travailler à vue, en fait. De toute façon, ils ont peu d'émissions vocales à l'heure actuelle. Donc, vraiment, l'idée, c'est de les voir, en fait. Souvent, quand on s'intéresse aux... Oh, pardon.
Oui, non.
Souvent, quand on s'intéresse aux oiseaux, on commence déjà par les regarder. Et après, on se rend compte qu'en se promenant, on a du mal à les voir quand il y a les feuilles, les buissons et tout. Oh là là. Et donc, la plupart des les ornithologues en général ou les gens qui étudient les oiseaux vont travailler à l'oreille. Donc, ça vaut le coup aussi d'exercer son oreille. On a une autre perception de notre environnement. Moi, je m'y suis mis sur le tard, hein, j'avoue complètement. J'estimais que j'étais pas bon avec mes oreilles. Alors, petit à petit, voilà, on accumule comme ça des informations.
Sur la sonothèque du muséum pour s'entraîner.
Ah ouais, il y a plein d'outils maintenant. Quoi. Avant, c'était des cassettes.
Ça a changé. Enfin, c'était donc, ce verdier, qu'est-ce qui lui était arrivé?
Alors, le verdier, en fait, tu as dit qu'il allait un peu mieux, mais en fait, c'est pas tout à fait vrai.
Ah, zut.
Oui. Bon. On en a compté un peu plus dans les jardins là, en 2023. Mais entre, je regardais l'analyse des données sur cette petite chronique là, sur une quinzaine d'années. De 2009 à 2018, c'était à peu près stable. Puis en 2018, il se casse la figure. Bon, il n'apparaît plus, en fait. Ça correspond aussi à une période où il a été victime d'une maladie qui s'appelle, là, je regarde mes notes parce que je ne l'ai plus en tête, la trichomonose, qui est une infection respiratoire. Qui a éradiqué ces populations, en fait, purement et simplement. En Angleterre, ils estimaient la population de verdiers d'Europe à 4 millions d'individus. Ils sont tombés à 1 million des poussières, quoi. Et donc, ça se cumule avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Je ne vais pas répéter, mais voilà.
Bien sûr, avec le fait qu'il y ait les pesticides et tout ça.
Les pesticides et plus la dégradation des habitats aussi. Faut pas oublier
et
ça.
Le verdier, en fait, cette maladie était, alors c'est intéressant de le dire aussi, était notamment liée au fait qu'on a nourri les oiseaux, mais on n'a pas nettoyé les mangeoires.
Exactement, en fait. C'est une pratique très sympathique, hein, de nourrir les oiseaux.
Ce n'est pas nécessaire, d'ailleurs.
Ce n'est pas nécessaire. Il y a différentes écoles, on va dire. Donc, personnellement, j'appartiens plutôt à l'école de « on nourrit pas », mais c'est à chacun de voir. Après, et quand on nous... Alors, parce que, par exemple, dans la période d'hiver que l'on vit actuellement, on a un peu de froid à l'heure actuelle, mais d'une façon générale, on a pas eu vraiment d'hiver, on pourrait dire. Donc, les oiseaux, nos résidents, là, ont toujours accès à la ressource alimentaire. Donc, quelque part, on n'a pas besoin de les aider, en fait. Hein, voilà. Et quand on les aide, faut prendre quelques précautions, puisque la mangeoire, ça peut devenir... où les oiseaux s'agglutinent, voilà, sont au contact, en fait. Ça peut être un lieu de transmission de maladies, bah, redoutable, en fait. Hein, par, les, par les fientes, par la proximité. Enfin, donc, si on nourrit, ben, on disperse ces
mangeoires,
voilà. On fait pas un seul gros plat, là. Voilà, on en met plusieurs. Comme ça, ils sont moins nombreux à venir dessus. Et ils sont obligés de se répartir. Et puis, surtout, on les nettoie. Donc, on les surcharge pas et il vaut mieux les réalimenter régulièrement. Et on les nettoie, mais quand on les nettoie, genre, on les brosse, quoi. Voilà. Et puis surtout, l'idée, c'est aussi plutôt utiliser des nichoirs qu'on appelle silos, là, en cage, verticaux, où les oiseaux ne vont pas se poser sur un plateau et faire caca sur le plateau.
Ah oui.
Et en fait, ça, il va moins se salir. Quoi.
D'accord.
Parce que ces microbes, en fait, ces maladies se transmettent par les fientes principalement. Quoi.
Et oui. Bon, alors, on n'a plus le temps d'expliquer en détail comment observer les oiseaux, mais je vous invite à aller sur le site internet de Bretagne Vivante et donc à retenir une heure du 27 ou du 28 janvier prochain pour observer les oiseaux. Merci beaucoup, Luc.
Merci. Ouais.